poésie, ça se loge dans l'absence, celle des personnages d'Hélène Bessette ou celle de Joseph d'Arimathie dans un tableau du Caravage. À faire apparaître ce soir avec l'écrivain Mathieu Riboulet, le plasticien Emmanuel Lagarrigue et la créatrice de la revue NZ, Nathalie Lacroix.
Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Et c'est jusqu'à minuit. Mathieu Riboulet, Emmanuel Lagarrigue, Nathalie Lacroix, bonsoir, bienvenue. Nathalie Lacroix, vous avez un temps été libraire, ça c'était au Comptoir des Mots à Paris, avant de cofonder le BAL, Bureau des Activités Littéraires, qui édite notamment la revue NZ, en majuscule, N/Z, peut-être comme numéro zéro. Une parution annuelle pour une revue qui prend sa source dans la poésie et les arts visuels, avec ceci de particulier que la parution papier n'en est qu'une des étapes, puisque cette revue-là prend son temps, celui de donner à voir préalablement les processus de travail et d'écriture, sous forme de performances, de soirées, d'expositions et de rubriques, nourries en ligne. Emmanuel Lagarrigue, vous êtes plasticien, un travail qui fait de l'exploration du langage son axe premier, langage transformé, transcodé ou traduit, on y reviendra, un langage instable donc, qui trouve son expression aussi bien dans la voix, le texte, que dans sa transformation physique, sculpture comprise. Vous rassemblez pour la première fois à la galerie Dilecta à Paris, sous le titre énigmatique de « Quelque chose d'invisible n'en peut plus », l'ensemble de vos pièces liées à la fréquentation assidue, disons, de l'œuvre d'Hélène Bessette, histoire, dites-vous, de clarifier la persistance de ce lien. Mathieu Riboulet, vous êtes écrivain, après une série, disons, serrée de publications chez Verdier, il y a eu La lisière des corps, Entre les deux il n'y a rien, qui figurait d'ailleurs sur la liste du prix France Culture Télérama, et Prendre date, correspondance post-attentat Charlie, tenue avec l'historien Patrick Boucheron. Vous publiez aujourd'hui Or, il parlait du sanctuaire de son corps, un texte à deux voix, la vôtre et celle du graveur et peintre Frédéric Cochet, paru cette fois aux excellentes éditions Les Inaperçus. Ce court texte en fragments, illustré, Mathieu Riboulet, est littéralement encadré d'une phrase empruntée au chapitre 2 de l'Évangile selon Jean, alors que Jésus chasse les marchands du temple. Or, virgule, il parlait du sanctuaire de son corps. C'est donc cette phrase-là qui ouvre le texte par son titre et qui clôt le texte. Est-ce que c'est elle qui vous a fait écrire ce texte? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Qu'est-ce qu'elle dit du projet même d'écriture?
C'est plutôt le point d'arrivée. Alors évidemment, la décision de l'utiliser comme titre en fait également un point de départ pour la lecture, mais dans le travail du texte, c'était plutôt le point d'arrivée et d'un seul coup l'évidence de l'utiliser pour clore et comme titre. Simplement, elle reprenait de manière vraiment, pour moi, très essentielle et très ramassée, une des questions qui me préoccupe beaucoup et dont j'essaye aussi de parler dans ce texte-là, ce qui est la question du corps, tout simplement, et de la façon dont le corps peut porter l'histoire, nos histoires, nos sentiments, nos émotions et nos silences, et en l'occurrence, surtout, comment un corps s'est fait porteur d'une parole.
Descente de croix, déposition, mise au tombeau, marchand de temple, miracle, résurrection, tout ça, ce sont quelques épisodes que vous approchez peut-être par ses failles, par ses corps en tout cas, ça c'est sûr, et puis par ses personnages secondaires, par ses absents même parfois. C'est peut-être anecdotique, mais vous avez choisi, pour appuyer l'écriture, la traduction récente de la Bible dirigée par Frédéric Boyer, chez Bayard, celle qui traduit justement « Or, il parlait du sanctuaire de son corps », qu'on traduit généralement par « Mais il parlait du sanctuaire de son corps », voire par « Mais il parlait du temple ». De son corps. Au-delà donc de la phrase, juste de cette phrase-là en question, cette version-là, cette langue-là particulière, celle de la traduction de Boyer, est-ce qu'elle a fait de vous un autre lecteur de la Bible?
Ben certainement. Elle a fait d'abord de moi, pour le dire très honnêtement, un jaloux de n'avoir pas été de la partie, disons. Non, surtout, elle m'a procuré beaucoup de bonheur. De toute façon, j'en avais déjà eu beaucoup à la lecture de ces textes-là. Mais là, d'un seul coup, à la fois avec la langue employée par les écrivains et le travail rendu visible par l'édition, des théologiens, des philologues, etc., qui ont travaillé avec les écrivains de concert pour établir ces textes, apparaissait toute une dimension très puissante, poétique, purement poétique.
Quand vous dites que vous auriez aimé mettre de la partie, Mathieu Riboulet, quel moment de ce texte-là auriez-vous aimé travailler?
J'aurais pris ce qu'on me donnait.
Ah, quand même.
Ma fréquentation de ces textes-là récente et plus tournée vers les évangiles, ça aurait été il y a une dizaine d'années, j'aurais volontiers dit Ézéchiel ou Jérémie. J'aurais plutôt pris des textes de l'Ancien Testament, parce que en particulier dans Ézéchiel, il y a une violence qui à la fois me touche et m'intimide, et que ça m'aurait intéressé sans doute d'aller voir comment elle se fabriquait d'une certaine manière pour à ce point être sensible à la lecture.
C'est un texte littéraire aussi, vous l'avez dit, écrire dans ces pas-là, comme vous le faites là aujourd'hui, est-ce que ça a imposé ou impliqué quelque chose, autre chose à votre écriture ?
Je vois qu'il y a une façon de poser la langue, disons, et de chercher une espèce de calme dans l'énonciation qui n'est pas forcément nouvelle, mais dont je pense que j'avais vraiment besoin après les textes que vous avez mentionnés tout à l'heure et que j'avais écrits dans les mois précédents et qui m'avaient amené sur des chemins beaucoup plus fatigants. Et donc là j'avais envie de calme, j'avais envie qu'on soit au contact, aussi bien au contact des éléments naturels, des oliviers, de la pierre, des odeurs de la mer, de la chaleur, qu'au contact le plus simple possible du texte, quoi.
Le texte passe justement du jeu du narrateur écrivant donc au « on », au « nous », même à un autre jeu hein, qui brusquement, assez furtivement devient le jeu de Joseph. Alors, ça n'est pas la première fois hein, que vous tournez autour de ces questions de placement et de point de vue. De quoi sont faits ces « on », ces « je » ? Qu'est-ce qui se joue justement dans ces changements de point de vue, c'est-à-dire ce passage au « nous » collectif, et donc à ce changement d'adresse, Mathieu Riboulet ?
Ben, il se joue, ce que je pense se joue toujours dans ces changements, quel que soit le contexte, mais là, ça me paraissait important de le faire apparaître aussi. La multiplicité toujours possible des identités et l'importance, la nécessité que j'imagine forte pour ces hommes-là d'être ensemble et d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté. Comme j'avais déjà effectivement creusé cette question-là, je l'ai reprise tout naturellement dans les mêmes termes, c'est-à-dire en essayant de jouer de la très très grande plasticité du passage toujours possible de « je » à « nous » et de « nous » à « on » et « retour ».
L'histoire que vous racontez, ou plutôt celle que vous ne racontez pas ou vite fait, hein, c'est celle de Jésus. Celle-là est connue, elle est relativement simple, écrivez-vous. Il est né, il a porté une parole, puis il est mort. Point. Celle que vous allez chercher ou exhumer des trous ou des mystères du récit passe donc par d'autres personnages, ceux qui se contentent, écrivez-vous, de traverser le livre du bout de leurs sandales, plus ou moins, pas tous, hein. Bartimée, donc l'aveugle devant Jéricho, Jaïr, sa fille, Simon de Cyrène qui porte la croix, Nathanaël et surtout Joseph d'Arimathie, converti en secret, donc, hein, qui demande à Pilate le corps du Christ, l'enveloppe de lin et le dépose dans un tombeau vierge qu'il recouvre d'une pierre. Pourquoi fallait-il s'appuyer d'abord sur ce personnage-là ? Qu'est-ce qu'il prend en charge ?
Bah, il prend en charge une fonction essentielle qui est aussi celle de la littérature, c'est-à-dire la mise au tombeau, bah, voilà, tout simplement.
Poursuivez depuis
oui,
quelques
oui.
temps.
Donc, oui, de toute façon, on écrit toujours.
On écrit toujours.
On n'en sort pas en réalité. Quoi. On écrit toujours. Enfin, on écrit toujours la même chose. On travaille toujours sur les mêmes. Sur les mêmes éléments, sur les mêmes interrogations, sur les mêmes choses sur lesquelles, en fait, on ne peut pas ne pas revenir. Et en réalité, ce qui est appréciable, c'est de pouvoir donner des formes très différentes à cette même interrogation. Et puis, par ailleurs, le point de démarrage de Joseph d'Arimathie était un point de démarrage, en tout cas conscient, comme ça, beaucoup plus purement poétique, c'était juste le nom. Pour moi, Joseph d'Arimathie, ça sonne magnifiquement, mais comme Simon de Cyrène ou comme Nathanaël de Cana, d'abord, ça sonne. Voilà.
Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Mathieu Riboulet ?
Le chemin de Cyrène à Jérusalem longe la côte, passe par Alexandrie, Péluse, Gaza, Antipatris, suivant la voie romaine. Pour le faire, il y faut de nouveau des sandales, une tunique, un manteau, de quoi couvrir sa tête, et beaucoup de courage, de temps et de patience, car il est autrement plus long que celui de Joseph venu d'Arimathie. Mais la mer n'est pas loin, avec elle un peu d'air, même chaud, il aide à vivre. Pourquoi a-t-on quitté Cyrène? On ne le sait au juste, ni a fortiori ceux qui viendront ensuite. Comme ces quatre sœurs de la Pentapole cyrénéenne, Apollonia, Ptolémaïs, Tinquera et Euhespéride, Cyrène ne manque ni de bras, ni de blé, ni d'ouvrage. Peut-être a-t-on voulu voir un peu de pays, peut-être a-t-on eu vent du frère de Palestine semant une parole propre à donner espoir, peut-être a-t-on voulu faire au moins une fois la Pâque dans le grand temple qui rassemble les Juifs. Nul ne sait, mais du moins s'est-on mis en chemin, a-t-on atteint la terre dont le grand livre parle. On a sans doute loué ses bras, sa force en route pour un rien de moisson et trois noyaux d'olive. Qui sait si on n'a pas, dans le grand delta vert, pris un peu de repos dans les bras accueillants d'une juive d'Alexandrie, belle et sombre, souple et tiède, repris à ses côtés quelques-unes de ses forces que les grands chemins usent, vivifié ses longs muscles, repris confiance en soi, redonné sens à Dieu et apaisé la crainte, souple et sombre elle aussi, de devoir accueillir la fin de toute chose sans avoir pu monter chaque degré du temple. Mais on a pu aussi ne rien penser du tout, partir simplement parce qu'on ne tient pas en place ou parce que des vicissitudes font l'exil nécessaire. L'appartenance au lieu, au maître, au Dieu, est un mystère trop plein pour qu'ici on le perce, la distance est trop grande, tout cela s'est perdu dans les gouffres du temps. Simon a simplement quitté Cyrène et la Cyrénaïque, il a longé la mer, l'immense étendue bleue d'où sont venus un jour ceux qui fondèrent la ville, cette Mare Nostrum dont Simon n'a que faire car il n'est pas marin mais simple paysan. Puis il a traversé le beau delta sans fin du grand fleuve égyptien pour toucher finalement la caillasse sèche et dure du sol palestinien, enfin Jérusalem, qu'on aperçoit au loin dans ses plis de pierrailles en travaillant le blé, les vignes ou les olives, de quoi manger, en somme, dormir un peu. Rêver.
Merci. Simon de Cyrène, en dehors d'avoir un nom qui sonne, hein, est aussi un de ces personnages qui ne figurent pas forcément sur la photo. Hein. J'entends qu'il ne figure pas forcément ni dans l'évangile selon Jean. Nathanaël de Cana y figure furtivement. Joseph d'Arimathie est évacué du fameux tableau de la déposition de croix du Caravage. Hein. Lui n'y figure carrément pas. Ce qui faisait penser évidemment à votre texte précédent. Alors, ils n'ont pas grand-chose en commun, enfin, quoique, après ce qu'on vient de dire, mais entre les deux, il n'y a rien. Votre précédent livre, dont vous dressiez donc, ce tombeau aux révolutionnaires morts dans les années 70 et 80, tombé et récupéré par l'écriture, récupéré des failles de l'histoire, qu'est-ce que ça dit de ce qui vous fait écrire, au fond, et de votre rapport à l'histoire? Écrire, c'est d'abord combler les trous de l'histoire?
Oui. Au fond, c'est une manière aussi de combler presque autant les trous de l'histoire que les trous de l'histoire qu'on a écrite à la suite, hein, c'est-à-dire de cette histoire que racontent les évangiles, puis ensuite de tout ce qui s'est écrit sur cette histoire et qui rajoute à chaque fois une couche de soit de commentaires, soit de nouvelles histoires, qui fait que le contact avec l'histoire de départ se perd, se brouille toujours davantage et plus rarement s'éclaire. Et c'était aussi sans doute une manière de désigner en fait ou d'approcher le personnage central de cette histoire, en l'occurrence Jésus, dont il n'est pas question directement dans le texte, mais d'en dessiner finalement les contours par ces six vignettes et par cette rêverie autour de six personnages qui, à un moment ou à un autre, jouent un rôle ou croisent la route. Et que cette manière de dessiner en creux un personnage était quelque chose qui m'intéressait particulièrement, là, cette fois. Là, il y avait, au fond, presque de trop-plein central qui équivaut en réalité à une absence. Le texte tourne autour, les personnages tournent autour, l'histoire tourne autour, et on continue à tourner autour 2000 ans après et à ajouter quelques mots pour désigner la figure.
Ces personnages ont des visages, des vêtements, des sandales, ressentent le soleil, le sable, la mer, les olives, vous l'avez dit, les abeilles même, qui se posent sur leurs mains. Autrement dit, une histoire qui passerait d'abord par les corps, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Écrire justement cette histoire par les corps, c'est une façon de réduire justement cette distance dont vous parliez à l'instant.
Sans doute ça aboutit à ça, mais en réalité la raison première c'est que c'est le seul moyen pour moi. En règle générale c'est le seul moyen, mais la seule possibilité que j'ai d'accéder à ces personnages-là et à l'imaginaire que je leur prête, et à la façon dont moi-même je projette et j'imagine le pays et le contexte dans lequel ils vivent et se déplacent, c'est d'essayer de deviner ou de dire quelque chose de leur corps. Parce que de leur pensée, de leur motivation, de leur volonté, de leur croyance réelle, je ne sais que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce que dit le texte et ce qu'on dit tous les textes qui se sont ajoutés par-dessus.
Je parlais tout à l'heure de, justement à propos de corps, de Joseph d'Arimathie, absent du tableau du Caravage, un tableau radical, écrivez-vous, Caravage que vous convoquez à nouveau à propos de la résurrection de Lazare, bien sûr, Caravage auquel vous avez consacré des textes, hein, qui a sa place sur votre route. Est-ce que votre lecture du livre en a été changée ? Est-ce que votre rapport à la peinture, c'est aussi quelque chose qui vous a fait lire le livre, ou lire les livres, ou lire ces textes sacrés, ou les lire autrement ?
Oui, probablement, c'est assez impossible autrement, et en particulier d'avoir beaucoup vu et beaucoup réfléchi à la peinture de Caravage dans un autre contexte et pour un autre propos, mais ça n'a pas pu ne pas influer, et en particulier cette façon qu'il a eue systématique d'illustrer de manière incroyablement prosaïque et parfois même profane les sujets religieux. Et en réalité, cette espèce de faille là qui dessine justement entre le sujet qu'il décide de traiter et la manière dont il le traite, elle m'intéresse infiniment. Et donc c'est sûr que ça a dû contribuer à me faire avancer dans cette voie-là et à oser m'aventurer sur le terrain des évangiles, ce que j'aurais probablement pas fait avant ou plus tôt, quoi.
Qu'est-ce qui vous en empêchait ?
Sans doute une réflexion qu'on devine insuffisante. Je pense que c'est d'abord ça, et un besoin d'apprivoiser davantage et de se sentir davantage en contact, ou sinon en communion avec le texte, pour oser s'y aventurer.
Je me reviens à ce que vous disiez à l'instant sur le Caravage, justement, et sur ce texte-là, au fond, qui donne presque l'impression d'une écriture qui, non pas qu'elle fasse écho au Caravage, mais qui au fond ferait un peu la même chose, hein, que ce que le Caravage a fait pour illustrer ces images-là.
Oui, c'est l'idée, c'est effectivement ce dont je me suis rendu compte la suite de votre question, c'est ce traitement très spécifique du Caravage, encore une fois de manière très prosaïque des sujets sacrés, disons, pour faire un peu vite. D'un seul coup, c'est une possibilité qui s'offre à nous, quoi. On se dit, mais finalement, ce que je cherche sans doute depuis assez longtemps, c'est-à-dire de pouvoir m'avancer plus avant sur le terrain du sacré, mais sans rien abdiquer des armes de la laïcité, de la trivialité, du prosaïsme. Est-ce que c'est possible ? Ben oui, c'est possible, donc je vais le faire, je vais essayer de le faire.
À propos d'images, Mathieu Riboulet, comment s'est opérée la jonction, ou pas d'ailleurs, avec les dessins, les gravures de Frédéric Cochet, qui viennent rythmer le texte.
La jonction, elle s'est faite simplement, je pense, par le fait qu'on ait très probablement mutuellement vu dans le travail de l'autre ce qui pourrait rejoindre nos propres préoccupations.
Et à partir du moment... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vu chez Frédéric Cochet, justement ?
Des choses très mystérieuses, à vrai dire, mais qui m'ont justement infiniment plu d'emblée. C'est-à-dire cette espèce de mélange d'un dessin à la fois incroyable. Enfin, je ne suis pas du tout qualifié pour parler d'art plastique et j'y connais rien, mais c'est l'impression spontanée que j'ai eue, c'était que c'était un mélange de très grande sophistication, parce que c'est un dessin très très pensé, très très fouillé, et en même temps ça pas toujours, mais ça a souvent l'air d'une espèce de petit gribouillis dans un coin de page. Et j'ai beaucoup aimé ça, quoi. Cette façon, au fond, de traiter un grand sujet, parce qu'il y a beaucoup de grands sujets dans les dessins de Frédéric Cochet. Il y a la guerre, il y a la mort, il y a le corps, il y a plein de choses comme ça qui paraissent un peu ronflantes. Et toujours cette manière, au fond, très modeste et en même temps très sûre de le traiter.
Nathalie Lacroix.
Il faut peut-être juste préciser une petite chose quand même, parce que c'est anecdotique, mais c'est quand même assez bien. Moi, c'est une collection que j'aime beaucoup, qui a laissé beaucoup de place à la photo au départ et qui maintenant s'ouvre à d'autres arts. Et qui a toujours été une petite collection qui a été toute noire. Et vous avez la chance d'avoir le premier livre qui est tout blanc de la collection.
Oui, je pense que c'est grâce à Frédéric Cochet, ça, et au dessin qui, d'une certaine manière, imposait
la contrainte.
Le retour blanc. Mais...
La toute première page, Mathieu Riboulet, se partage très exactement en deux paragraphes. Un premier paragraphe qui réfère évidemment à l'histoire, au récit, un second qui réfère au présent. L'histoire est connue, elle est relativement simple. Il est né, il a porté une parole, il est mort. Et puis un petit peu plus loin, second paragraphe, on ne sait rien de la naissance ni de la mort, on ne sait rien de la parole ni du pays, sinon que ce dernier, à l'heure où j'écris, est un théâtre où le sang coule dans l'ombre des oliviers, le murmure des orars, le détachement du vent. Et plus loin, rien ne change, sinon l'échelle, ce dont nous parlions tout à l'heure. À quel présent un tel livre renvoie-t-il? Je ne sais même pas s'il faut que je pose la question. Mathieu Riboulet.
Non, mais c'est toujours très délicat à manier ce genre de dosage, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une démonstration de quoi que ce soit, mais il ne s'agissait pas non plus de faire comme si il ne se passait rien, quoi. Et que dans la, je pense que aussi dans la, en tout cas dans mon intérêt et ma fascination pour ces textes-là, il y a aussi le fait qu'ils viennent d'un endroit de la Terre où ils continuent à se jouer des choses déterminantes pour nous tous, quoi.
C'est la raison pour laquelle on peut aussi parler de texte, quasiment d'un texte géographique dans ce que vous avez, de ce que vous avez écrit, hein. C'est vrai qu'on traverse vraiment toute la région. Alors parfois vous donnez le nom actuel de la région ou de la ville, mais pas forcément. Mais c'est aussi une déambulation géographique.
Oui, absolument. Mais ça c'était sur le c'était important, parce que moi j'ai toujours été sensible à la géographie, et que précisément une part vraiment importante des enjeux de la région sont des questions géographiques, et des questions de territoire, et des questions de déplacement, et des questions de peuplement, et que le marquer et dire ou simplement rappeler que cette même géographie, c'est-à-dire cette même terre, était à la fois exactement la même et très profondément différente sur ce qui est de la répartition, de l'occupation, de la non-occupation, des déplacements, etc. Mais de le faire de la manière la plus fine possible, quoi, que ce soit juste un trait...
Vous glissez quand même à un moment donné la question de occupant-occupé.
Oui, bien sûr.
Dans une des phrases. Mathieu Riboulet, vous avez demandé à entendre une voix. Ça aurait pu être celle de Pasolini, mais ça ne l'est pas. C'en est une autre, qui a peut-être des échos géographiques d'ailleurs avec ce dont nous parlons. Et cette voix, c'est celle-ci, interrogée par Bertrand Poirot-Delpech en 1982.
Et si un tortionnaire vous dit qu'il a été changé par la lecture de Jean Genet?
Les vrais tortionnaires, en réalité, ne me lisent pas. Je ne pense pas qu'un homme puisse être transformé par ce que j'ai écrit. Il peut détester ce que j'ai écrit ou adhérer à ce que j'ai écrit. D'ailleurs, un tortionnaire n'est pas complètement un tortionnaire. Chaque homme fait de tout sa peinture. Et il n'est pas transformé par la lecture d'un livre, la vue d'un tableau ou par une musique. Il transforme au fur et à mesure tout ça, et il en fait quelque chose qui lui convient.
La voix de Jean Genet, 1982, avant de vous demander les raisons de ce choix, qu'avez-vous fait de Jean Genet qui vous convienne?
Il m'apparaît là, au fond, en entendant la voix de Genet là à l'instant, que finalement j'ai relu Le Captif amoureux pas très longtemps avant d'écrire... Le sanctuaire, et que c'est sans doute quelque chose qui a joué dans la mise en route de l'écriture, parce que c'est un texte très profondément bouleversant et violent, mais poétiquement et politiquement violent. Je connais peu d'exemples de texte qui a atteint un tel degré d'incandescence comme ça. Donc, sûrement, ça a dû jouer. Par ailleurs, je ne vais pas du tout prendre la parole pendant des plombes, mais ça, c'est évidemment une lecture et une langue et une position d'artiste qui est incroyablement nourrissante pour moi depuis toujours, et qu'en réalité, je pense que dans la possibilité de jonction des questions politiques et sexuelles au texte, l'écrivain central, c'est lui, et en tout cas
davantage
pour moi,
que Pasolini.
Il a été pas davantage. Il s'agit
non,
pas
mais
de
sur cette de, question-là de, quand, précisément.
Oui, mais il s'agit peut-être de manière plus viscérale que Pasolini. Pour moi, oui, il y a quelque chose qui s'est noué viscéralement à la lecture de Genet quand j'avais 14 ou 15 ans, qui ne s'est jamais effacé depuis. Et Pasolini, c'est venu un tout petit peu plus tard, et puis c'est venu d'abord par le cinéma, ce qui est donc très différent comme élaboration, en fait, après.
Alors, c'est une autre voix qui vous travaille, hein, et que vous travaillez, Emmanuel Lagarrigue, hein, qui vous travaille tant que vous exposez, disons, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'une certaine façon, vous exposez votre relation à son œuvre à la Galerie Dilecta à Paris. Une vingtaine de pièces produites depuis 2013, je pense que ça doit être la plus ancienne qui s'y trouve. Toutes sauf une, on y reviendra, qui font apparaître et disparaître en un même geste d'effacement et de révélation des phrases, des mots, des phrases, des lambeaux de textes d'Hélène Bessette. Écrivaine disparue dans l'oubli en 2000. Alors, Hélène Bessette, rapidement, c'est une douzaine de romans, une pièce de théâtre, un récit, paru en l'espace de 20 ans à peu près, hein, entre 1954 et 1973. Puis, plus rien, en tout cas plus rien de visible, plus rien d'édité. Une écrivaine à écrivain, comme on dit, hein, soutenue en son temps par Queneau, qui l'a édité, par Marguerite Duras, par Dominique Horry, par Nathalie Sarraute. Réédité ensuite, obstinément, au milieu des années 2000, par les éditions Léo Cher, hein, dans la collection Laure Lee. Préfacé, postfacé dans sa seconde vie éditoriale par des écrivains et poètes, encore, à nouveau, donc Claro, Bernard Noël ou Maëlys de Kerangal. Avant d'en venir à la façon dont cette langue prend forme chez vous, Emmanuel Lagarrigue, un mot sur cette relation qui s'ouvre assez tardivement, hein, en fait, en 2006, à partir d'un spectacle d'Yves-Noël Jeunot, c'était au Rond-Point. C'était au moment de répétition, je crois même, avant la représentation, à proprement parler, avec des lectures par Valérie Dréville, donc par la voix, par des fragments, avant de l'aborder par le texte. Est-ce que l'aborder par le corps, est-ce que ça a imprégné, est-ce que ça a imprimé votre rapport à Bessette?
Je pense que ça a beaucoup joué, puisqu'en fait, ça a même été une espèce d'imprégnation dont je ne me suis pas forcément rendu compte, puisque je n'allais pas, lors de ces répétitions et les spectacles d'Yves-Noël Jeunot qui évoluent à chaque représentation, je n'y allais pas à la rencontre d'un texte ou d'un écrivain, comme quand on va au théâtre, on va voir une pièce de Falkrichter, de je ne sais pas qui, enfin voilà. Là, c'était un spectacle comme Yves-Noël est capable d'en faire, c'est-à-dire qu'il mélange plein de choses, et entre autres des textes que je ne connaissais pas, de cet auteur que je ne connaissais pas, et dont en fait le contenu changeait tous les jours, puisque Valérie Dréville avait à sa disposition deux ou trois volumes de Bessette, et elle piochait, selon son inspiration du jour, les passages qu'elle souhaitait lire ou pas. Donc on avait une espèce de découverte diffuse de la langue de Bessette. Donc, pour moi, qui ai toujours été sensible à la fois à la voix, au travail sur le fragment, etc., c'était une manière, on va dire, à peu près idéale pour m'accoutumer doucement à cette parole-là et la faire découvrir à travers des propos qui se renouvelaient sans cesse, tout en tournant autour de certaines questions ou figures qui seront centrales chez elle. Je le découvrirai par la suite en commençant à m'intéresser plus précisément à son travail et en commençant à la lire, tout simplement.
Alors les personnages, je ne sais pas très bien si on peut appeler ça des personnages, quoique aussi elle tenait à cette idée de personnage à vif en tout cas. Le plus souvent chez Hélène Bessette, on se cite particulier qu'ils sont travaillés en creux par leur absence, soit qu'ils soient morts d'entrée, hein, aux premières lignes du roman, soit qu'ils soient révélés par leur absence, au détour d'une correspondance sans correspondant par exemple, ou de récits effectués par les autres personnages en l'absence de l'héroïne, un peu comme vous, Mathieu Riboulet, vous l'avez fait. À ce propos, on écoute la voix d'Hélène Bessette.
J'ai écrit par lettre parce que d'abord, ça m'est venu tout naturellement du fait que je l'écrivais d'après 13 lettres que je possédais moi-même et que je possède encore. Et puis parce que la présentation d'un livre par lettre est une espèce de tour de force. Et comme je l'ai présenté, n'est-ce pas, il n'y a que deux personnages, celui qui écrit et celui qui reçoit. Il n'y a en fait qu'un seul personnage, celui qui écrit les lettres, qui est masculin, et celui qui les reçoit, la femme qui est éloignée, qui est un personnage féminin, est en quelque sorte un portrait en demi-teinte, qui reste éloignée parce qu'elle représente comme un débat intérieur qui n'est pas réglé. On sait ce qu'est l'Église, on sait ce qu'est un pasteur, on sait ce que peut être une théorie théologique ou religieuse, on sait beaucoup moins ce que peut être la théorie d'une personne qui quitte l'Église résolument, qui s'éloigne de toute une société pour essayer de reconstruire en elle-même un monde entier. C'est un tableau qui mérite évidemment un certain brouillard, ce qui donne à l'œuvre une espèce de trame dramatique constante du fait que la personne qui parle, qui écrit les lettres, donc la personne qui parle, ne sait même pas si elle a un interlocuteur. Il s'agit d'un long monologue, en quelque sorte, avec soi-même.
La voix d'Hélène Bessette, je crois que c'est la première fois que vous l'entendez, Emmanuel.
Exactement, Garing. Exactement. C'est assez troublant, en fait. J'avais jamais cherché à l'imaginer. J'ai toujours un rapport assez... je ne sais pas s'il est particulier ou très personnel au texte, en particulier au texte sur lesquels il m'arrive de travailler. Je fais peu de recherches autour de la biographie des auteurs. Je cherche pas à me documenter beaucoup. J'ai même jamais essayé de savoir si sa voix avait été enregistrée ou pas, ou si je pourrais l'écouter ou pas. Et même le rapport à la biographie de Bessette a, par certains moments, pu me déranger parce que je
trouve
qu'il
y en a eu une.
Et il y a eu quelques textes dans des revues aussi. Et en fait, c'est des choses qui me perturbent plus qu'autre chose. Et à chaque fois que j'essaie de m'en approcher un peu trop, ça finit par m'éloigner des textes et de l'auteur. Donc du coup, je repars dans l'autre sens et je replonge uniquement dans les textes. Donc c'est pour ça que là, je découvre sa voix. Et en fait, je suis content de l'avoir découvert. Merci.
Alors cette voix-là, c'était en 1967, le 30 septembre pour être précise. Et c'était au micro de Jean Paget. Et elle parlait donc de « N'avez-vous pas froid ?» Qu'avez-vous fait de ce texte, Emmanuel Lagarigue ?
Alors, ce texte est une histoire très particulière pour moi, puisque c'est la première fois où j'avais auparavant fait quelques pièces partant de textes d'elle, dont le premier était sur Le bonheur de la nuit. N'avez-vous pas froid ? Et pour moi, une situation excessivement particulière qui fera écho chez vous, Mathieu Riboulet, aussi. Puisqu'en fait, j'avais décidé, d'une certaine manière, de prendre en charge presque l'intégralité du livre. On m'avait proposé une exposition dans l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen, qui est une abbatiale gigantesque. Et donc, je suis parti à Rouen pour faire une exposition que j'avais décidé de centrer uniquement sur N'avez-vous pas froid. Donc, j'avais commencé à préparer quelques petits éléments, mais j'avais décidé de faire comme je fais souvent, c'est-à-dire un travail en immersion. Je pouvais passer une semaine dans cette abbatiale, et je suis venu avec quelques outils, un enregistreur sonore, etc. Et j'avais une semaine pour produire une exposition dans une cathédrale, ce qui est plutôt une gageure, mais c'était assez rigolo. Puisqu'un des jeux était en fait que je venais avec uniquement le contenu d'une Twingo pour remplir cette abbatiale.
En plus, il y a des contraintes, c'est olympien.
Donc il y avait ça et les heures n'étaient pas réalisées. En fait, je devais les réaliser dans l'abbatiale. C'est des contraintes que je me fixe parfois et qui me permettent de sortir quelque chose d'assez particulier. Donc on m'avait laissé les clés de l'abbatiale et je pouvais y passer la semaine. Et en fait, il se trouve que cette semaine a commencé le 5 janvier dernier. 2015, donc ça a été une semaine un peu particulière, puisque on sait qu'il y a eu les attentats de Charlie, etc., donc au deux ou troisième jour d'accrochage. Donc je vivais dans une espèce de monde qui était complètement étrange, dissocié, puisqu'il mélangeait cette histoire Bessette le dit dans l'interview, il n'y a qu'un seul personnage, c'est le personnage masculin. C'est évidemment faux, puisque le seul personnage présent dans N'avez-vous pas froid, c'est le personnage féminin qui n'existe que par les violences qui lui sont faites. Donc, et c'est pour ça que ce roman ou ce livre est absolument formidable. Donc voilà, donc je me suis retrouvé à passer une semaine à mélanger la violence faite à une femme dans les années 60 par un mari au nom de, en plus, la religion, etc., puisque son mari était pasteur et qu'il lui renvoie à travers ses lettres à peu près toutes les ignominies qu'il est possible de développer à travers les processus de pouvoir et de contrôle qu'un homme peut développer à ce moment-là. Mélangé avec, évidemment, mon iPhone ouvert en permanence sur les fils d'actualité, etc., et les retransmissions des chaînes d'infos en continu, tout ça dans une abbatiale où il faisait 3 degrés. Donc j'ai vécu une semaine assez particulière avec Bessette. Et où au final, la nuit, j'enregistrais les lettres. Et ça a terminé dans une grande exposition où derrière chacun des 18 piliers de l'abbatiale, il y avait une des lettres qui était lue par ma voix. Et il y a une vingtaine de situations qui étaient entre des sculptures et des arrangements, des espèces de, ce que j'appelle d'assemblage de jeux, en utilisant uniquement les chaises prises dans l'abbatiale et quelques matériaux que j'avais amenés. J'avais construit des situations de jeu, des choses. En fait, l'exposition était pensée comme une forme de mise en scène, le spectateur évoluant à l'intérieur de l'espace. Il y avait donc 40 minutes d'enregistrement sonore des différentes lettres et ces situations de jeu qui proposaient en fait des moments dont on ne savait pas si ils précédaient ou ils suivaient un événement qui pouvait être soit anecdotique, soit très violent, en jouant uniquement sur des assemblages à partir de 2-3 matériaux très simples, du cuivre, du bois et des formes de cordes du chanvre et uniquement les chaises de l'abbatiale.
Alors justement, je voulais revenir sur... donc ça, c'était pour N'avez-vous pas froid, mais votre première lecture, vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Lagarrigue, c'était donc Le bonheur de la nuit. Ça a donné une première pièce et une première double opération de traduction, de transmutation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, même d'alchimie, d'une certaine façon. Des phrases, des souvenirs de phrases traduits en morse, codes qui sont eux-mêmes transposés en larges entailles, qui sont creusés dans de très longues, très lourdes poutres de bois, un peu comme des totems hypertextes qui porteraient en eux une langue, pour le coup, muette, plastique en tout cas, mais muette, secrète. Qu'est-ce qui, dans la langue de Bessette, peut-être dans ce livre-là en particulier, permettait justement cette transmutation plastique, hein, parce que la langue de Bessette a ses particularités dont on n'a pas parlé encore.
Oui, je ne sais pas qui veut dire de mots sur ses particularités d'écriture. En général, ça peut être tout à fait...
Non, mais Emmanuel, je vous en prie, c'était justement...
Oui, en fait, je pense que...
Ça a permis, justement, pour vous, de développer autre chose.
Je pense que cette ce premier ensemble de pièces, donc, qui est effectivement des constructions faites sur des poutres de charpente en chêne massif, et une forme aussi de retranscription du choc que moi j'ai pu éprouver par rapport à la découverte de sa langue, qui est une langue excessivement violente, très abrupte, très, très cinglante, très courte, qu'à certains moments on peut prendre pour de la poésie. Donc, en fait, quand je me retrouve face à des textes qui restent trop longtemps en moi, qui résonnent, je me retrouve d'une certaine manière dans l'obligation de chercher à en faire quelque chose, à les faire sortir de moi. Et les faire sortir de moi, c'est trouver un viatique ou une manière qui me permette de les transformer, puisque pour les faire sortir, il faut bien que je les transforme. Je ne peux pas juste me contenter de les relire ou de les redire.
Ça veut dire vous en débarrasser ?
Ça veut dire à la fois les offrir et leur donner l'occasion de me revenir aussi d'une manière encore différente, je pense. C'est les laisser partir pour me les réapproprier par la suite. L'envie de base est toujours de les transformer en autre chose qu'eux-mêmes. Je m'intéresse depuis longtemps à ce moment où justement une chose se perd, mais pas totalement. Comment est-ce qu'il est possible de laisser à une chose la possibilité de se transformer tout en ne s'absentant pas complètement d'elle-même? À ce moment-là, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais découvert que le morse était une langue qui avait été décrétée morte quelques années auparavant. On avait décidé que le langue, au même titre que le grec ou le latin, était une langue morte, qu'elle n'avait plus le droit d'évoluer, qu'elle n'avait le droit d'être utilisée qu'à titre de mémoire ou de souvenir, qui était quelque chose qui était assez impensable pour moi, d'organisme certificateur. En 2000 et quelques, décide que cette langue est morte. Donc à partir du moment où il a décidé qu'elle était morte, il n'est plus possible de rajouter des nouveaux caractères ou des choses comme ça. Et donc du coup, elle est figée. Pour normalement tout le temps.
Oui, sauf si on continue à en faire ce qu'on veut.
Et ben voilà. Donc du coup, je me suis dit...
Sauf si les locuteurs se révoltent
et décident d'en faire des poutres, des sculptures, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est cette envie en fait qui m'a pris à ce moment-là de l'utiliser comme un outil, pour en faire quelque chose, pour la transformer en un outil, pour que vraiment, pour le coup, cette langue ou ce code puisse produire quelque chose de très différent de ce que lui-même a l'habitude de produire, c'est-à-dire uniquement des signaux, et qui plus est des signaux qui normalement sont soit sonores, soit visuels. Donc dans ce cas-là, il s'agissait de le prendre en charge pour lui faire produire de la sculpture sur quelque chose qui, pour moi, fonctionnait bien avec ça, parce que ces immenses, enfin, ces très grandes poutres en chêne sont des poutres de charpente, de construction, donc qui ont, sont choisies normalement par les acheteurs pour leur solidité. Mais les entailles que je fais avec ces textes traduits en morse sont très profondes. Donc en fait, elles annulent la nature et la destination de ces poutres, puisqu'elles les fragilisent, elles leur retirent leur fonction, puisqu'à partir de là, ces poutres ne peuvent plus servir à construire, puisqu'elles n'ont plus la rigidité suffisante. Donc en fait, voilà, le morse traduit un texte en sculpture, mais traduit aussi un objet, une poutre, en autre chose que lui-même, en objet à regarder pour des propriétés qui ne sont pas celles que de ses propriétés de rigidité ou de construction.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manou Farine.
Alors pour être peut-être un peu plus précis ou visuel, je ne sais pas, à la galerie Dilecta, vous rassemblez donc une série d'œuvres avec des techniques, des matériaux distincts, donc on a compris, hein, du bois, du cuivre notamment, mais du papier aussi, et qui toutes se tiennent sur cette lisière fragile entre l'apparition et la disparition du texte, qui est un peu en général d'ailleurs l'endroit où vous vous trouvez. Ces phrases vont donc toutes subir des opérations diverses, traduites en morse mais pas seulement, ça peut être aussi en braille, en langue en tout cas muette, creusée ou libérée dans la matière. Dans des plaques de cuivre, ces poutres, des petits cubes de bois aussi, du papier, du sable, ça c'est pour l'apparition, recouvertes parfois de bains d'acide, hein, ce qui va faire un effet de d'effacement et de creusement progressif, donc en négatif, ou gravé blanc sur blanc, ça c'est pour la disparition aussi. Une vingtaine de pièces, donc cette exposition-là, dites-vous, voulait clarifier, Emmanuel Lagarrigue, l'origine de ce lien et clarifier surtout votre propre rapport à l'œuvre. Je vous entendais dire tout à l'heure que vous reteniez une phrase pour l'effet qu'elle vous faisait à vous, sur vous. Donc j'imagine que ça, c'est aussi un portrait de vous en lecteur que cette exposition. Qu'est-ce que, au final, cette exposition a mis à jour de ce lien que vous n'aviez pas identifié? Puisque vous dites, hein, en démarrant l'exposition, qu'au fond, vous ne saviez pas tellement pourquoi vous continuiez à retourner à Bessette, et que l'exposition devait au moins avoir cette vertu-là, que de clarifier l'origine de cet intérêt et de problématiser, au fond, ce lien qui vous lie à elle.
La question de base chez Bessette, enfin, il y a une question, une position de base et une manière de travailler autour de ça, c'est la question de la disparition avant tout, et de l'absence et de la disparition, et de la manière dont il est possible d'apparaître ou d'exister, ou quelles sont les manières dont on peut réussir à se mettre à exister dans la tête des gens. Et donc, à partir de là, pour soi-même, puisqu'on existe dans le rapport qu'on a aux choses et aux gens. Les manières dont Bessette a travaillé ça tout au long de son travail sont, pour moi, les réponses les plus justes qu'on peut avoir dans certains domaines sur ça, sur comment est-ce qu'on peut essayer de se mettre à exister dans l'esprit des gens et dans les sensations des gens en faisant apparaître progressivement des choses qui ne passent pas nécessairement par le jeu, par la présence physique, par le fait d'imposer un discours, un point de vue, une position. C'est d'une certaine manière, pas faire apparaître les choses à rebours, mais donner aux gens la possibilité d'imaginer soi-même ou d'imaginer un personnage ou de créer cette relation ou ce lien qu'ils peuvent avoir avec vous.
Pour autant, pour prolonger ce que vous dites, les textes tels que vous les retravaillez, tels que vous leur redonnez forme, tels que vous les transformez en permanence, d'un matériau ou d'un geste à un autre, finalement vont persister dans une forme parfaitement illisible.
Oui, tout à fait, mais dans une forme. Dans forme illisible, il y a forme aussi. Je suis justement pas un écrivain.
Précise, hein, comment ça veut dire en braille, ou encodé en morse, ou effacé par des bains d'acide.
Voilà.
Si je puis blanc me permettre, sur blanc. C'est éminemment Bessettien, ça, parce que quand même, la trajectoire et l'écriture d'Hélène Bessette ont fini dans l'illisibilité, quand même. À la fois l'illisibilité du texte lui-même, enfin, j'ai pas eu en main les manuscrits, mais je suppose qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais. Et puis l'invisibilité, l'illisibilité publique,
historique.
Le fait qu'on n'ait plus accès au texte. Et...
Tout à fait.
Donc c'est d'une... cohérence voilà. rare.
C'est pour moi en tout cas une forme logique. Chaque fois que je travaille avec un texte, il est évident que chaque texte qui me saisit suffisamment pour que j'ai besoin de m'en dessaisir d'une certaine manière, m'impose ou me fait chercher la forme qui lui convient. Et voilà, cette forme n'est pas une forme écrite, est une forme plastique, qui est créé par l'écriture. La disparition est du coup ambiguë, puisqu'elle est disparition en tant que texte, mais apparition sous une autre forme, dans un autre domaine, dans un autre régime, apparition plastique. Et en même temps, le texte ne disparaît pas non plus complètement, puisque toutes les pièces ont pour titre le texte dont elles sont issues. Donc il n'y a pas...
Un mot ou une phrase
voilà, c'est pas des rébus, c'est pas des choses dont, si on ne maîtrise pas tel code ou n'importe quoi, on ne saura jamais ce qu'ils veulent dire. Il suffit de lire le texte de la pièce et on sait quel est le texte qui a été l'origine de cette nouvelle pièce.
Oh, I can cook too, on top of the rest. My seafood's the best in the town. Yes, I can cook too. My fish can't be beaten. My sugar's the sweetest around. I'm a man's ideal of a perfect meal, right down to the demi-tail. I'm a pot of joy for a hungry boy. Baby, I'm cooking with gas. So I'm a gumdrop, a sweet lollipop, a brook trout right out of the brook. And what's more, baby, I can't cook.
Je voulais revenir à la revue, donc à la revue NZ, ou venir plutôt même à la revue NZ, qui cuisine, hein, parce qu'après tout, c'est quelque chose qui a son importance aussi dans cette revue actuellement, donc son deuxième numéro, premier numéro paru en octobre dernier, second numéro lancé le 11 mars dernier, c'était au Palais de Tokyo, alors que la revue en était plus ou moins à son point zéro, à sa minute zéro en tout cas, puisque c'est une revue qui se déroule sur la durée avec une publication papier qui serait donc en fait le point final ou le point conclusif de la revue en question. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait claire. Donc cette revue, c'est donc une durée, un processus de travail et d'écriture et qui se donne à voir avec ses chefs de rubrique, qui sont des écrivains ou des artistes. Hein. Ils sont 8, parmi lesquels, je crois, pour le numéro à venir, Alban Lefranc, Laure Limongi, Ryoko Sekiguchi, qui est écrivain, poétesse et cuisinière officielle de la revue. Si je vous ai bien suivi.
Alors Ryoko, elle ne sera pas chef de rubrique, parce qu'elle était chef de rubrique dans l'édition numéro 1,
mais
elle est cuisinière officielle.
Oui. Pour la voix d'Hélène Bessette, Nathalie Lacroix, est-ce que j'imagine qu'elle pourrait trouver sa place dans la revue NZ ?
Hélène Bessette, en fait, pourrait pas vraiment, parce qu'elle n'est pas vivante. Et pour l'instant, nous, on n'a que des auteurs et des artistes qui sont vivants, c'est ça, enfin, qui sont contemporains.
En même temps, il est question de fantômes aussi, oui. Chez vous, tout ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Pourriez-vous débrouiller?
Non, mais en tout cas, c'est vrai, comme c'est de la création en cours, c'est plutôt des artistes qui sont vivants. Et même, on invite d'autres poètes, écrivains, artistes à intervenir uniquement dans sa forme papier. Et c'est aussi des gens qui sont vivants et qui nous donnent des inédits, a priori.
Quelle forme spécifique, justement, fallait-il imaginer pour tout ça? C'est-à-dire pour tout ce projet sur la durée. Qu'est-ce qui imposait, justement, cette forme-là en particulier pour arriver un petit peu à délimiter, au fond, une revue qui ne fait que déborder d'elle-même?
La forme de cette petite partie de la revue, qui est la partie papier, elle est liée à plusieurs choses. D'abord, elle est liée à la question qu'on pose aux chefs de rubrique qu'on invite et aux auteurs ou artistes qu'on invite dans la partie papier. C'est-à-dire que c'est une revue qui n'a pas de thématique. Ce qui travaille dans cette revue, chacun le travaille finalement avec la question qui se pose à lui-même, qui est soit un début de projet, soit un laboratoire. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de faire un sommaire et de relier tous ces intervenants ensemble. Donc il y avait cette première question qui était de dire finalement comment on les réunit dans un objet qui en même temps ne les rattache pas les uns aux autres, si ce n'est qu'on leur a posé tous la même question, c'est-à-dire comment vous travaillez avec l'écriture. Est-ce que vous nous ouvriez une petite fenêtre sur votre atelier et sur un travail qu'on va suivre sous trois formes, en public, en ligne et en papier. Donc déjà, il y avait cette première chose de se dire, on va pas les relier, on va pas essayer de les mettre dans un volume qui est fermé. Et puis, il y avait l'idée de se dire qu'on avait envie d'un espace qui puisse s'approprier aussi de manière différente. Donc c'est l'idée de ces feuilles à trois que nous, on plie. Donc la revue, elle a un format finalement à quatre. Mais à l'intérieur, c'est des posters à trois qui se... à cinq. Ouais, merci. C'est des posters qui se déplient en A3 et qu'on leur a proposé d'utiliser comme ils voulaient. Donc il y a plusieurs manières de le lire. Il y a un petit signe dans le sommaire qui l'indique. Il y a certains qu'on déplie et qu'on lit comme un poster et d'autres qu'on peut découper, massicoter pour lire comme un petit livre.
Puisqu'on parle d'écriture contemporaine, en tout cas de laboratoire d'écriture contemporaine de Nathalie Lacroix, le premier numéro comprenait notamment un texte de Claro, des œuvres, des images photographiques, je crois, de Virginie Gassef. Notamment.
Ouais, en c'était une co-rubrique avec John Ayrton, deux plasticiennes. Ouais.
Et Ryoko Sekiguchi, donc, qui a donc disparu, puisqu'on ne peut pas y retourner. Qu'est-ce qu'un tel sommaire voulait mettre en place ou voulait défendre, puisque c'est quand même le premier numéro, donc ouais. J'imagine que qui dit premier numéro dit ADN.
On est trois co-créatrices à cette revue, Sally Boone, qui est philosophe, critique d'art, Lola Kreis, qui est poète. Et quand on s'est interrogé sur nos premiers invités, évidemment, on avait un peu quelque chose derrière la tête. Donc à chaque fois, on avait envie d'aller explorer une forme de travail qu'avaient ces invités. Donc par exemple, il y a Luc Benazé et Benoît Cazas qui tiennent une rubrique à quatre mains parce qu'ils étaient en train d'entamer un travail sur comment on revisite la correspondance.
Ils écrivent ensemble, par
exemple. Et qui est d'ailleurs édité chez Hero Limits. Ryoko Sekiguchi, elle était co-chef de rubrique, mais c'est Ryoko qu'on avait invité au départ avec Philippe Ribon, qui est un photographe designer qu'elle a rencontré à la Villa Médici. Et Ryoko, ce qui nous intéressait, c'était ce travail qu'elle fait autour du goût. C'est-à-dire que c'est une poète, c'est quelqu'un qui écrit, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit et qui écrit de plus en plus sur le goût, sur la nourriture, sur les aliments. Et c'est ça qu'on avait envie d'aller creuser en allant regarder par-dessus son épaule. Et on avait un peu une idée comme ça à chaque fois... De ce que pratiquaient finalement ces artistes et ces auteurs et qu'on a envie d'aller voir. Quoi.
Un autre poète, c'est celui que vous avez choisi d'entendre, qui semble se tenir exactement à l'endroit où se tient la revue. Enfin, je ne sais pas, on verra ça avec vous, Nathalie Lacroix. Cette voix, c'est celle-ci.
Tarantulé sort du lit et dit « Suonatemi, faites-moi de la musique ». André, 14 ans, Nicolas, 10 ans, Adrien, 2 mois. Tous les trois, roche, main. Il se sent la gorge nouée, étouffe et souffle, les yeux exorbités. Marbre blanc du pont volant, s'élève le Sheng Mu, Dian de la... Jour consécutif, galopé au milieu du cloître de l'horreur vagabond. Meurt en l'imprégnant de sa semence. Le nouveau naît alors et... Ust, qu'est-ce que ça secoue mes seins ? Jaya, go slower, please.
La voix de Denis Roche, donc ça n'est pas la bande qui saute, c'est Denis Roche. Le 20 janvier 1981, c'est dans les Nuits Magnétiques, hein, sur France Culture, dépôt numéro 6. Qu'est-ce que vous vouliez entendre, Nathalie Lacroix ?
Alors ça revient à ce qu'on se disait un petit peu avant, c'est aussi que d'entendre quelqu'un lire. Quand on regarde au départ des pots de savoir et de technique, on se dit « oulala, mais j'arriverai jamais à lire ça, c'est vraiment une langue très particulière ».
Qu'est-ce que c'est ?
Moi c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'en fait c'est une langue qui vous demande de réapprendre à lire finalement, de réimaginer, de réinventer la manière dont vous êtes un lecteur. Alors, dépôt de savoir et technique, c'est... Moi, je vais vous le dire, je vais vous le dire comme je le ressens en tant que lectrice, que je suis ni critique, ni... C'est ni de la prose, c'est ni de la poésie, c'est à chaque fois un dépôt, c'est un mélange, c'est des collages, c'est des traductions, c'est comme des débuts de narration, mais qui s'arrêtent au moment où on laissera jamais aller la narration jusqu'au bout. Voilà, c'est un texte qui est extrêmement particulier, qui est extrêmement, émouvant quand on finalement on rentre dedans, ou en tout cas qu'on se met à aimer un texte comme ça, qui est extrêmement impressionnant au départ, où effectivement on se dit mais c'est hermétique, c'est mystérieux, c'est voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Des gens qui travaillent une langue, je crois que c'est Denis Roche qui le disait, mais je sais pas à qui a emprunté ça, cette citation finalement, parce que peut-être lui-même l'avait emprunté à quelqu'un. C'était écrire, c'est bégayer dans sa langue. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de réinventé, ouais.
Merci à tous les trois, Mathieu Riboulet, Emmanuel Lagarrigue, Nathalie Lacroix. C'est la fin de cette émission, presque. Je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, bonne nuit à vous.
C'est là, on continue, mais peut-être vous pouvez parler de corps, non?
Non, mais il y a une chose qui m'avait un peu frappé aussi quand vous parliez tout à l'heure du besoin d'extérioriser les textes qui vous marquaient ou sur lesquels vous aviez travaillé aussi. Moi, je me disais dans le cas de B7, je ne sais pas vous comme lecteur, mais il y a l'œuvre est tellement violente d'une certaine manière qu'il y a comme un besoin de la poser un petit peu hors de soi.
Je me suis dit exactement la même chose.
Enfin, pas pour s'en protéger, mais si, un peu pour s'en protéger.
Mais B7, c'est ça aussi. Moi, je me suis beaucoup interrogée sur le fait qu'elle soit restée aussi peu connue. Et finalement, c'est aussi parce que ces textes, ils sont d'abord incroyablement contemporains quand on les lit aujourd'hui, mais incroyablement dérangeants. C'est jamais un confort de lecture. Mais moi, c'est ça que j'aime. En même temps, il y a énormément d'humour, ça, il faut le dire, parce que sinon, tout le monde va avoir peur de lire B7.
Ça peut être très drôle.
Mais c'est ça, c'est très dérangeant. Mais à l'endroit où c'est justement intéressant, ça met le lecteur dans une position de choses qu'il n'a pas envie de voir.
Et ça laisse aucun répit au lecteur. Il y a une espèce de rebondissement permanent. Et en même temps, il y a aussi un truc, pour le coup, je trouve très un grand rapport au corps chez elle. À travers cette difficulté de la langue, il y a quelque chose dans presque l'affrontement qu'on peut ressentir à certains moments. On pourrait penser à pas à des joutes verbales, mais presque à des concours de rap ou des trucs comme ça, où il y a vraiment une espèce d'improvisation et d'intimidation à travers la langue, de mise en déséquilibre, enfin quelque chose qui du coup passe vraiment beaucoup par le corps. Ouais.
On va finir par faire les 4 minutes sur B7.
Oui.
C'est bien en même temps.
En fait, de toute façon, on les aura fait sur le corps, puisque manifestement, ça a été le point, le trait d'union, le point de raccordement de tout le monde.
Oui, moi, c'est Ida ou le délire, moi, qui me semble un des textes les plus représentatifs du côté. J'avais pas pensé à ça, le côté rap ou enfin oui, comme ça. Qui met vraiment en scène dans la langue le.
Parce qu'on a, parce qu'on a l'impression d'être au milieu d'une espèce d'accord avec les voix qui viennent de toutes les parts.
Mais il y a quelque chose de très particulier. Moi, quand j'ai lu B7, le premier que j'ai lu, c'est Materna, et en fait, c'est une langue que je lisais à haute voix dans ma tête. C'est en fait, je la lisais à haute voix, et quand j'ai entendu les premières choses, je me dis mais c'est pas si évident que ça. En fait, c'est très particulier sa manière d'écrire, parce qu'on a l'impression que c'est évidemment quelque chose qui peut être mis en scène comme ça en claquant des doigts, et en fait pas du tout, quoi. On lit dans sa tête à haute voix, mais lire B7 à haute voix, c'est un autre travail. Donc
je pense que d'une certaine manière, ça y gagne, ou ça, en le déplaçant à voix haute. Comme toujours, de toute façon, on entend autre chose, on entend des choses dont on n'avait pas pris la mesure. Moi, j'ai eu la chance, d'entendre une partie de Ida ou le délire mis en voix, disons, par des comédiens amateurs dirigés par Florence Giorgetti, la comédienne.
Qui est une bessétienne.
Qui est une bessétienne de la première heure.
Convaincue de la première heure.
Voilà. Et c'était absolument magnifique, quoi, parce qu'il y avait une façon qu'avaient ces hommes et ces femmes de s'approprier le texte de B7, de le donner à entendre, justement sans la moindre interprétation ou volonté de. Et le texte éclatait dans sa violence et dans sa drôlerie.
Dans sa drôlerie.
Ouais, féroce, mais dans sa drôlerie.
Ça doit sans doute être une des meilleures manières de le prendre en charge, justement, de le faire passer par une parole assez direct.
Non, puis je pense que ce qui est aussi très dérangeant chez B7, et c'est aussi moi ce que j'aime chez Denis Roche, c'est cette liberté, quoi. C'est des gens qui ont une liberté absolue. C'est l'anti-bourgeoisie. L'anti-pensée bourgeoise, quoi. C'est...
Ah oui, c'est sûr.
Poésie, ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Lucie Spindler pour la préparation, à Jacques Azubert pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Mathieu Riboulet, Emmanuel Lagarrigue et Nathalie Lacroix. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du soir sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.com. Mais tout de suite, c'est minuit et c'est les nuits de France Culture par Philippe Garbi.